Salut à tous et bienvenue, c'est le retour de l'émission L'eau à la bouche, 6e saison. L'eau à la bouche, une émission interassociative dédiée à l'environnement, proposée et présentée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange. L'eau à la bouche d'octobre 2010 vous emmènera en reportage notamment à Montpellier, Latte et dans le Haut-Languedoc. Premier reportage, quand le fleurissement s'invite en ville avec Cécile Pinon de l'association Semilla. Il sera question d'une exposition sur la biodiversité au bout du pinceau avec François Delamby, illustrateur et ingénieur écologue, actuellement à voir à la Maison de la Nature à Latte, précisément jusqu'au 29 octobre prochain. Visite du Jardin des Plantes de Montpellier avec Didier Morisot, chargé des identifications botaniques à l'Université de Montpellier 1. Et puis enfin, des sorties d'automne proposées par le CPE du Haut-Languedoc, le Centre Permanent pour l'Initiative et l'Environnement. Série de conférences sur les paysages qui évoluent. Et puis enfin, il sera question du mouflon avec une sortie prévue le 6 novembre prochain, intitulée « Le guetteur de lune ». Quant aux pauses musicales, elles seront signées Yann Tiersen avec cet album qui vient de paraître, intitulé « Dust Lane », enregistré principalement sur l'île d'Ouessant, au large de la Bretagne. Bienvenue à tous dans l'eau à la bouche.
Un balcon intérieur et des fois pour l'hiver je sais pas trop quoi mettre.
D'accord, alors là il y a des plantes vivaces,
oui, qui sont vivaces, c'est ça qui
donc pas. Elles vont avoir une saison morte de repos,
lesquelles
repos
qui l'hiver vraiment pour un balcon qui soit un balcon intérieur
toutes les plantes hein, toutes ça,
d'accord,
ça, c'est des grimpantes, des plantes grasses, les graminées, hein, les vivaces,
c'est magnifique. C'est magnifique.
C'est que des plantes adaptées au milieu pauvre, au terrain sec.
Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Ah, bonjour monsieur.
Madame.
C'est moi qui me renseigne.
Encore un voisin.
Pas bah, des chiens, hein.
Ah, mon chien. Oh, il est brave, mon chien.
Ah, là, t'es brave.
Vous le voyez, mais il est brave, hein.
Tu fais les pipis là où il faut, hein.
Renseigne.
Encore un voisin.
Pas bah, des chiens, hein.
Ah, mon chien. Oh, il est brave, mon chien.
Ah, t'es brave.
Vous le voyez, mais t'es brave, hein.
Tu fais les pipis là où il faut, hein.
Ah bah oui, bah, qu'est-ce que vous voulez, fait ce qu'il peut.
Ah ouais, ouais.
C'est un chien, hein.
Ah, c'est sûr. Bah,
je vais pas vous dire qu'il fait les choses bien, c'est pas vrai, hein.
On poursuit notre tour à travers Montpellier et son environnement. Et là, nous sommes donc rue du Commerce, quartier Figuerolles à Montpellier. Et je rencontre Cécile Pinon de l'association Semilla qui propose du micro-fleurissement au micro-jardin. On verra quel terme est le mieux approprié en milieu urbain. Bonjour Cécile, quels sont les objectifs de l'opération que tu es en train de mener à l'heure de cette interview qui va précéder une inauguration officielle par la ville de Montpellier?
Alors le micro-fleurissement, le but du jeu, on va dire, c'est d'impliquer les gens dans l'amélioration de leur cadre de vie, de leur donner envie de se rencontrer dans la rue et notamment sur le trottoir qui est un espace public. Donc il y a une rencontre et on revisite ce que peut être l'espace public s'il est réapproprié par des habitants. Et l'enjeu, c'est de le faire de façon collective et de créer un lien avec ces petits jardins entre les gens, leur apprendre à se connaître et à s'engager à un projet commun Et quand on dit engagé, c'est-à-dire que les habitants sont les parrains de leur petit jardin, de la partie qui sera ouverte pour eux. Et ensuite, ils vont entretenir, fleurir, s'en occuper et forcément profiter de tout ce qu'auront fait les autres aussi.
Quelques mots sur l'association Semilla. Quels sont vos travaux, vos objectifs, etc.
Alors Semilla, c'est une association récemment créée dont le projet central est jardiner la ville. Et quand on dit jardiner la ville, on le prend au sens large, c'est-à-dire de la transformer avec les gens. Et le but, c'est sous le prétexte de gestes simples et de projets de jardinage, rentrer vraiment dans la pratique en faisant les chantiers et en impliquant les habitants directement dans les chantier, de repenser notre environnement. Et les grandes questions, c'est comment vivre ensemble, réfléchir à la question d'écologie urbaine, socialement, de liens et de projets collectifs. L'idée, c'est de créer des petits projets, voilà, de transformation simple, et d'y apporter une touche d'écologie dedans.
Toi, en tant que personne qui travaille au sein de cette association, tu te définis en tant que jardinière, environnementaliste, écologue, animatrice. Quel terme t'aurais envie d'utiliser ?
On pourrait garder un peu tous, mais celui qu'il faudrait garder, c'est jardinière. Et c'est jardinière de la ville, c'est-à-dire du bitume, des gens, des plantes, et au sens large et poétique aussi.
Alors aujourd'hui, des micro-fleurissements naissent, voient le jour dans le quartier de Figuerolles à Montpellier. Donc concrètement, il s'agit de retirer soit du bitume, soit du béton sur une longueur de trottoir et d'y insérer des fleurs, des espèces végétales. Comment s'initie ce type d'opération ?
Alors il y a une double facette, il y a une collaboration proche qui se fait avec la mairie et les espaces verts de la ville. Et c'est vraiment eux qui soutiennent le projet pour que ça se multiplie, et c'est aussi eux qui interviennent concrètement dans techniquement l'ouverture. Quand on disque le bitume sur les trottoirs, c'est eux qui s'en occupent. Les démarches pour vérifier les conformités avec la voirie dessous, c'est eux qui s'en occupent. Et il y a aussi une petite participation des serres de Montpellier qui prêtent quelques plantes volontiers pour enrichir la palette des plantations des habitants. Et de l'autre côté, vraiment, le projet, il doit partir des habitants, et ça doit venir d'une demande de leur part, et si possible, qu'ils soient regroupés à deux, trois, un petit groupe de gens qui ont envie d'embarquer dans l'aventure.
Alors là, nous nous trouvons au 12 rue du Commerce, quartier Figuerolles. C'est le collectif du Patio & Co qui accueille cette opération de micro-fleurissement. Est-ce que tu pourrais nous décrire les espèces végétales que nous allons pouvoir trouver sur les trottoirs donc de cette rue ?
Ah oui, alors là on a une palette assez sympathique qui est prévue. Il y a En fait, il y a géré un tout petit espace pour les plantes. Donc, il y a l'espace au sol qui va être l'emprise et les plantes traçantes. Et les murs, donc, on va aussi taper dans la palette des plantes grimpantes. Et toutes les plantes ici, elles sont vraiment d'origine méditerranéenne et adaptées au milieu sec, au climat, au sol pauvre, compact. Et voilà, c'est des conditions très dures pour les plantes, donc va falloir choisir du robuste. Il y a une partie des plantes qui sont vivaces et qui vont vraiment créer un effet toute la belle saison, et c'est elles qui vont apporter le fleurissement.
Ce sont quelles plantes, par exemple ? Les plantes vivaces qui vont être plantées tout à l'heure ?
Le tulbagia, la verveine, ici non... l'achillée, la gastache, l'uriops, celle-ci on n'a pas le nom encore, on va trouver. Enfin voilà, ça c'est certaines plantes. Il y a une autre verveine, le solanum également.
Ce qui est des plantes grimpantes.
Alors dans les plantes grimpantes, là on a un solanum, une passiflore, un jasmin et un autre jasmin, voilà. Et une griffe de chat, une plante qui s'appelle la griffe de chat.
Le choix de toutes ces plantes, c'est quoi ? C'est toi qui les proposes ou bien ce sont les habitants aussi qui ont leur mot à dire en fonction de ce qu'ils souhaitent avoir comme type de fleurs ? Alors, et d'espèces végétales.
Vraiment, les micro-jardins qu'on crée, c'est en gros des petits laboratoires à plantation. Donc ce qu'on aimerait, c'est vraiment que les gens y mettent les plantes qu'ils ont envie de voir fleurir devant chez eux. Et on va après essayer de les suivre et les tenir au maximum pour que ça marche. Mais souvent, les personnes qui participent, elles sont pas elles font pas de jardinage avant. Et la question des plantes, elle revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme plante ? Donc nous, on peut donner des indications, des suggestions, des propositions sur qu'est-ce qui peut marcher plus qu'autre chose. Ouais.
Donc là, c'est une partie de nature qui revient sur son trottoir. Là, c'est le premier micro-jardin qui est inauguré dans la ville de Montpellier. Est-ce que ton souhait, c'est de voir ces opérations-là se multiplier indéfiniment dans le milieu urbain ?
C'est tout à fait. Le souhait, ce serait que ça donne envie à d'autres gens et que les micro-fleurissements arrivent dans d'autres quartiers. Notamment, j'aurais bien des envies dans les quartiers les plus minérales de la ville, hein, c'est-à-dire le centre, l'hypercentre, le quartier Antigone et les quartiers qui ont vraiment été bétonnés, minéralisés. Et puis en fait on s'inspire un peu de ces faubourgs où les gens ont planté généreusement devant chez eux, ce qui est le cas déjà à Figueroles. Donc on est très contents que eux ils ont vite compris en fait l'intérêt de le faire. Mais ouais, l'idée c'est que ça se reproduise un peu partout. Après ça va être aussi un peu suivant la capacité d'intervention de la ville pour tous les travaux d'ouverture et de chantier à faire là-dessus quoi.
Est-ce que la motivation des habitants pourrait se différencier entre ceux qui le font parce que ben, ça va être beau, c'est joli de mettre des fleurs et c'est ça qui les motive, et puis peut-être une autre catégorie de personnes où là c'est plutôt la prise de conscience environnementale de dire aujourd'hui il faut peut-être remettre un peu d'environnement dans nos vies et aussi dans nos villes. Est-ce que c'est un peu ça les deux tendances que tu peux observer toi à travers ce qui motive les participants à ce type de projet ?
Ouais, tout à fait. Il y a les deux facettes et souvent les gens sont conscients qu'on a besoin de changer la façon dont on fabrique les villes. Le micro-fleurissement, c'est une manière très abordable, de toute petite échelle, avec peu de moyens, facile d'entretien, de le faire. Donc ça, les personnes qui sont impliquées dans les projets, elles l'ont vite compris. Elles ont non seulement se rendre un cadre de vie bien plus agréable, et en plus elles s'impliquent. Pour la ville, et ça tout le monde l'a compris. Il y a vraiment une question qui est d'ordre politique, hein, dans les projets de micro-fleurissement, c'est la réinvention de l'espace public et d'initiatives citoyennes sur l'espace public. Et ça la ville l'a bien compris, ils sont très contents que ces projets-là arrivent.
Donc, vous l'aurez compris, si vous marchez en ville désormais, faites attention, les plantes et les espèces végétales, les fleurs, sont de retour sur les trottoirs. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur ces opérations de micro-fleurissement en milieu urbain, savoir comment est-ce que l'on engage ce type d'opération, qui contacter, est-ce qu'il y a des démarches à engager, etc., etc., où est-ce qu'on peut avoir de l'information sur le micro-fleurissement en milieu urbain ?
Alors, si les personnes en question sont Montpellier-Rennes, la meilleure chose à faire serait de nous contacter à l'association CEMIA sur le mail, c'est contact@cemia-france.com, et on peut avoir des informations plus amples sur le site de l'association qui est www.cemia-france.com.
Et un numéro de téléphone ?
Et mon numéro de téléphone, pour aller plus vite, c'est le 06 79 82 37 14.
Merci à toi Cécile et bonne inauguration donc.
Merci beaucoup à vous, au revoir.
Dust lane.
Un reportage de Mathieu Tellen. Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, diffusée sur Radio Pays d'Hérault 89, 96.7, 102.9, Radio Clapas à Montpellier 93.5 et Divergence FM à Montpellier 93.9. Dans un instant, entretien avec François Dolamby, illustrateur et ingénieur écologue, au sujet de l'exposition intitulée La biodiversité au bout du pinceau. C'est à Latte.
L'émission L'eau à la bouche vous propose désormais de bouger sur la commune de Latte, plus précisément à la Maison de la Nature de Latte, qui propose du 7 septembre 2010 au 29 octobre 2010 une exposition intitulée « La biodiversité au bout du pinceau ». Il s'agit d'une trentaine d'aquarelles naturalistes, reflet du regard croisé d'artistes et de scientifiques sur de nombreuses espèces animales exposées au cœur d'un espace naturel protégé à deux pas de Montpellier. L'exposition a débuté le 7 septembre et s'achèvera le 29 octobre. La Maison de la Nature de Latte est ouverte les mardis, mercredis, vendredis, samedis de 14h à 18h. Histoire de savoir ce qui est présenté dans le cadre de cette exposition, la biodiversité au bout du pinceau, eh bien la meilleure manière de le faire, c'était d'inviter François Dolamby, qui se définit comme illustrateur à ingénieur écologue. Une petite définition de cet intitulé pour une personne bien jeune.
Alors illustrateur, c'est peut-être un petit peu vague pour certains, c'est en gros dessinateur, peintre de sujets précis, donc rester dans un domaine. Et ingénieur écologue, en fait je suis ingénieur agronome de formation et j'ai fait une spécialité en écologie. Du coup voilà, je suis issu du milieu scientifique, intéressé à la base par la nature, et j'y ai appliqué mon goût pour la peinture.
Alors une formation dans le domaine scientifique, des goûts pour la peinture, pourquoi cette envie de mêler l'un et l'autre ?
Alors en fait c'est un petit peu, ça va être un peu matérialiste comme explication, mais j'ai toujours aimé la nature et du coup fait mes études dans ce domaine, et à côté de ça, je dessinais sur mes coins de cahier, tout plein de choses qui n'avaient finalement rien à voir avec la nature. Et c'est au moment de finalement la fin de la formation, quand on commence à avoir une activité professionnelle, que j'ai eu envie de d'utiliser ma technique de dessin en appui sur des missions de sensibilisation de l'environnement, qui était ma démarche personnelle à l'issue de mes études d'écologie. Et voilà, ça a fonctionné. Il y a eu des bons retours sur les premiers outils pédagogiques que j'ai créés. C'était au Conseil général du Val d'Oise, une exposition sur les rivières et zones humides. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas se lancer carrément, complètement dans le dessin, puisque c'est un vrai plaisir, et en faire un métier en indépendant.
Alors derrière les termes ingénieur écologue, on tourne autour de l'écologie. Quelle définition toi tu ferais de ce terme écologie, soit en tant qu'ingénieur, soit en tant qu'artiste, peintre, entre guillemets, ou illustrateur ?
Alors, ben, je vais peut-être pas définir l'écologie en général. Nous, notre métier, c'était de l'ingénierie en écologie, c'est-à-dire l'aménagement des espaces naturels, principalement dans un objectif de favoriser la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, les milieux naturels, je parle du cas français, hein, ont tous été anthropisés, c'est-à-dire impactés par l'homme, et il y a un besoin que l'homme corrige un petit peu ses erreurs, par exemple des disparitions de prédateurs ou de grands herbivores qu'il faut quelque part compenser en à la fois chassant des espèces qui peuvent devenir trop nombreuses et en réintroduisant des espèces qui peuvent remplir des rôles écologiques qui ont disparu. Le lien avec la peinture, je dirais que la peinture, il y a plein de choses qui se font. La peinture naturaliste, elle essaye de mêler justement ce côté artistique parce que ce qui nous attire a priori, c'est les formes, les couleurs et de la nature. Et mêler le côté aussi un peu scientifique, c'est représenter une espèce plus ou moins de manière réaliste, parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas besoin de la travestir la nature pour lui donner de la pêche, des côtés complètement extraterrestres. Des fois, on voit plein de gens me disent cette bestiole, est-ce qu'elle existe vraiment? Ben oui, quand c'est de l'illustration purement naturaliste, ça existe toujours, même si ça peut surprendre.
Oui, parce que peut-être contrairement à la photo c'est du réel, c'est une captation du réel. La peinture, c'est vrai que vous pourriez donner libre cours à votre imagination.
Alors il y a toujours quand même une part d'interprétation. On essaye souvent, en tout cas en ce qui me concerne, de caricaturer un tout petit peu, c'est-à-dire accentuer les gammes de couleurs. On parlait de la photo, selon le traitement qui est fait de la photo et selon le photographe, on peut avoir une même espèce qui va ressortir de plein de manières différentes. Après, l'idée, c'est d'arriver à comprendre globalement à quoi elle ressemble et peut-être de se lâcher un petit peu artistiquement sur les ombres, les reflets, accentuer telle couleur pour faire ressortir telle autre. Mais en restant globalement, l'objectif, c'est quand même qu'on puisse reconnaître l'animal et que, peut-être pas au point de reconnaître une espèce, mais qu'en voyant la bête, quelqu'un qui s'y connaît, en tout cas, nous dira « Ah oui, c'est cette bête-là, je la connais ».
Une exposition intitulée « La biodiversité au bout du pinceau », que va-t-on pouvoir découvrir à travers cette trentaine d'aquarelles naturalistes ?
Alors, pour expliquer le titre, c'est un petit peu un jeu de mots. C'est pas du tout un jeu de mots, d'ailleurs, c'est simplement pour mêler biodiversité, qui est un peu un terme barbare et qu'on met un peu à toutes les sauces aujourd'hui, et le pinceau, qui est très matériel. Mais finalement, je pense que c'est quand même un beau mariage entre le pinceau et la biodiversité. Ce qu'on peut découvrir, je pense, c'est d'abord des jolies images, j'espère, parce que c'est aussi un but en soi, je trouve, de produire un objet, un visuel qui soit agréable. Personnellement, je passe beaucoup de temps à regarder des livres d'images, des livres animaliers, qui sont souvent d'ailleurs pour les enfants, mais qui m'inspirent beaucoup. Alors j'ai indiqué les noms à chaque fois des espèces pour qu'on puisse. Il y en a certaines qui sont difficiles à observer, que moi-même j'ai pas observé, mais qui sont intéressantes à regarder dans la couleur du bec, dans la couleur des plumes, des pattes. Il y a plein de choses à voir.
Pour en citer quelques-unes des espèces animales essentiellement qui sont présentées dans le cadre de cette exposition.
Au niveau des espèces, j'ai essayé de faire plus ou moins des espèces qu'on pouvait croiser sur la réserve du Méjean, mais ça doit être qu'environ un tiers des espèces que je présente. Par exemple, il y a la cigogne blanche, là, qui est juste en face de nous, ou le busard des roseaux, qui sont deux espèces présentes sur le site. J'ai aussi exposé des espèces exotiques qu'on peut voir. Il y a un poisson clown, des dendrobates que j'aime beaucoup, ces petites grenouilles tropicales très très colorées. Ça vient d'un côté assez pratique qui est que mon métier d'illustrateur ne me laisse pas forcément le temps de peindre tout ce que je voudrais. Je peins d'abord ce qu'on me demande, hein, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est d'avoir un métier et d'en vivre. Et après, selon les jours, selon les périodes, j'ai envie de dessiner des toucans ou bien des espèces comme la menthe religieuse qui sont très locales et qu'on peut vraiment trouver ici. Donc il y a à la fois un peu de tout et à la fois surtout des espèces, je dirais, des zones humides, comme la cigogne blanche, c'est un bon exemple, un oiseau de zone humide locale.
Et le choix de la technique d'aquarelle pour faire cette peinture naturaliste, Pour quelle raison ?
Ça, c'est principalement, je pense, dû au fait que je travaillais beaucoup au feutre avant. Pour moi, la peinture, c'était quelque chose qui prenait du temps, où il fallait s'installer. Et moi, j'aimais bien avoir mes feutres tout prêts, mes couleurs déjà calibrées et les utiliser rapidement. J'ai toujours été un peu flemmard à ce niveau-là. Et en fait, techniquement, c'est quand même assez limité. Et du coup, je me suis rabattu sur l'aquarelle parce que c'est une technique qui est très complète, une gamme de couleurs extrêmement, extrêmement vaste et qui correspond au niveau de la manière de travailler à ce que j'avais au feutre. Du coup, ça fait à peu près 2 ans que je fais de l'aquarelle, ce qui est pas très très long finalement. Mais comme c'était très similaire à ce que je faisais avant au feutre, je pense que j'ai très vite, en tout cas, je me suis très vite épanoui. Moi, j'ai découvert plein de choses intéressantes et j'ai regretté de pas m'y être mis plus tôt. Voilà. Maintenant, d'autres techniques, j'ai essayé, de la gouache, de l'acrylique, etc. Mais je m'y retrouve moins parce que c'est peut-être simplement la façon dont je construis mon image qui correspond pas. J'ai pas encore bien compris, je réessayerai, mais pour l'instant, c'est vraiment l'aquarelle qui me plaît. Et finalement, c'est assez simple à travailler. C'est peut-être même plus rapide que des feutres pour se mettre en route. C'est une question de rythme, je crois.
Alors, visuellement, ce sont de très beaux objets. Lorsque l'on doit démarrer à se dire, ben voilà, maintenant il va falloir que je peigne tel animal, par quoi commence-t-on ?
On commence par déjà chercher l'animal qu'on veut peindre en général. Il y a des animaux que je repère moi dans des grandes encyclopédies, pour leur forme, pour leur couleur. Les dendrobates par exemple, ils m'ont toujours attiré le regard. Après, c'est trouver des ressources, parce que je travaille d'après photographie. Du coup, les dendrobates par exemple, il y en a à la serre tropicale de Montpellier, donc il faut aller prendre des photos, ou bien de manière plus pratique, contacter des gens qui ont des photos, trouver une photo qui nous inspire, qui met en valeur ce qu'on veut mettre en valeur. Ça peut être une forme, une attitude de principalement des animaux en l'occurrence. Et après, voilà, une fois que j'ai ma photo, je la reproduis plus ou moins telle quelle au niveau des formes, et les couleurs, je les mets un petit peu à ma sauce en essayant de coller quand même globalement à l'aspect.
Est-ce qu'il t'arrive d'aller peindre en milieu naturel, je veux dire, dans le vivant, entre guillemets ?
Alors ça m'arrive, mais uniquement pour le loisir, parce que j'ai l'impression que je fais un travail de moins bonne qualité en termes de production d'images. Du coup, je préfère être à mon bureau avec tout mon matériel, parce que je ne sais jamais au moment où je commence une peinture de quel pinceau je vais avoir besoin, de quelle couleur. Et tout me trimballer sur un milieu naturel, c'est parfois un peu compliqué. En général, j'y vais avec mon appareil photo et je reviens peindre chez moi. En plus, j'adore peindre en écoutant des audiobooks. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui fait passer des bons moments quand on peint des 8 ou 10 heures de suite. Et du coup, ça, c'est plus compliqué dans la nature, et c'est limite dommage parce qu'il y a plein de choses à écouter, mais... Voilà, du coup je travaille plutôt à mon atelier, c'est pas très poétique, mais c'est la réalité.
Alors là je lis Buzzard des roseaux, on en parlait tout à l'heure, Héron, Garde-Bœuf, Cigogne blanche, Toucan, Aigle bateleur, j'aurais envie de dire, bon là ce sont essentiellement que des oiseaux, est-ce que c'est un hasard, ou bien est-ce que c'est quand même, on va dire, la famille d'espèces animales que tu préfères illustrer ?
Alors non, pas du tout. Je suis loin de préférer les oiseaux. Je dirais que mes préférés, c'est plutôt les amphibiens, les dendrobates, c'est un peu mes chouchous. J'aime aussi beaucoup les poissons tropicaux, même si j'en ai c'était pas vraiment le sujet ici. Je pense que les oiseaux, ils se prêtaient plus à être exposés à la maison de la nature. Et on a aussi souvent besoin d'oiseaux parce que c'est quand même des familles qui sont assez larges et qui touchent beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'ornithologues, amateurs ou professionnels. Et du coup, c'était intéressant pour moi aussi d'en avoir plusieurs sous le coude pour me faire un book, tout simplement. Et après, pour toucher peut-être plus de gens, parce que je pense que si je fais une expo simplement de serpents, lézards et grenouilles, ça va rebuter certaines personnes, ce qui serait un peu dommage. J'aimerais que chaque personne qui vient à la maison de la nature, qui a quand même une sensibilité, trouve une ou deux espèces qui l'intéressent à regarder, au moins qui lui fassent plaisir à passer devant.
Alors les animaux sont essentiellement représentés sans, j'aurais envie de dire, sans leur environnement, ou du moins sans fond, sans paysage, c'est l'animal seul. Pourquoi ce parti pris ?
Ça, je ne sais pas si c'est un vrai parti pris ou si c'est plus une manière de percevoir l'animal. C'est vrai que en général, ça apporte une information plutôt scientifique de le placer dans un environnement qu'il caractérise. Moi, sur mes travaux de peinture, je me concentre sur l'animal parce que c'est ce qui me plaît le plus à représenter, tout simplement. Et d'ailleurs, sur les tableaux, je dirais classiques, on a un fond uniforme assez simple et qui a carrément disparu dans les derniers tableaux que je fais, puisque je les découpe complètement. Et je trouve qu'à la fois le rendu est plus intéressant, à la fois pour moi c'est plus agréable parce que les environnements prennent beaucoup de temps à travailler, et c'est quelque chose avec lequel je me sens un petit peu moins à l'aise que le sujet. Du coup, voilà, c'est à la fois un parti pris parce que c'est de la peinture, et du coup c'est pour me faire plaisir à moi. Voilà, on me demande souvent de faire des environnements dans mon travail, du coup ça me suffit.
Dernière question, est-ce qu'aujourd'hui il est facile ou difficile de vivre de l'illustration dans le monde de l'environnement ?
Je dirais pas que c'est facile. Je pense que l'illustration en général, c'est toujours des métiers difficiles parce qu'il y a énormément de gens et que c'est pas des métiers où ça recrute énormément. C'est-à-dire, ça recrute pas. C'est à chacun d'aller trouver des gens pour pouvoir travailler. Je pense que l'illustration naturaliste, c'est quelque chose qui est plutôt favorable en ce moment. Encore faut-il, à mon avis, avoir le bagage scientifique d'un côté et aussi la capacité d'aller chercher tout ce qui est des appels d'offres, aller rencontrer des prestataires scientifiques, etc. Ça, c'est une démarche qui ressemble plus à une démarche d'ingénieur, je pense. Et en ça, je dirais que moi, je m'en sors plutôt bien aujourd'hui, mais je pense quand même que ça reste un milieu assez difficile. Je pense qu'il faut être aussi faut positiver et du coup profiter de sa chance, et c'est ce que je fais. Mais je me rends quand même compte que par rapport à mes collègues de promo par exemple, je suis pas vraiment dans ceux qui ont la vie de château, je dirais.
Les usages de l'illustration naturaliste, c'est quoi? Ce sont essentiellement les expositions, les livres, l'édition?
Alors, il y en a beaucoup en édition, effectivement, parce que les animaux et les plantes sont des sujets qui ont toujours fait l'objet de beaucoup de livres. Alors, je dirais qu'en ce qui me concerne, c'est surtout des outils pédagogiques ou de sensibilisation du public, que ce soit des expositions pédagogiques sur un sujet ou sentier d'interprétation. Je viens de finir un sentier d'interprétation sur la vigne et le vin en Savoie, donc avec du contenu scientifique, culturel et de l'illustration en appui. Je viens aussi de finir une série de dessins pour le Siquarium du Gros du Roi, qui vont être utilisés sur des PowerPoint pédagogiques, donc des espèces de petits modules de cours à destination des scolaires. Donc voilà, mon domaine, c'est, j'aime en fait par conviction, hein, c'est plutôt la sensibilisation à l'environnement à travers des documents qui sont, contrairement aux livres, souvent des documents gratuits, financés par des fonds publics comme des collectivités. Et finalement, on en voit beaucoup, et quand on travaille dans le milieu, on apprend à faire attention à chacun, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est un public et qu'on a une dizaine de brochures sous les yeux.
Merci à toi François, je rappellerai donc que François Dolamby expose du 7 septembre au 29 octobre 2010 à la Maison de la Nature à Latte, une exposition intitulée « La biodiversité au bout du pinceau » où vous pourrez découvrir une trentaine d'aquarelles naturalistes, reflets du regard croisé d'artistes et de scientifiques sur de nombreuses espèces animales exposées au cœur d'un espace naturel protégé à deux pas de Montpellier. Merci François et bonne continuation au bout du pinceau.
Et merci à vous.
C'était L'eau à la bouche, diffusé sur RPH, Radio Clapas et Divergence FM.
Puisque nous venons de fêter l'arrivée de l'automne, et avant que n'arrive l'hiver, je vous propose d'aller prendre l'air. Mais nous allons aller prendre l'air en plein centre-ville de Montpellier pour parler biodiversité. Pourquoi le centre-ville de Montpellier pour y parler de biodiversité? Eh bien parce que nous sommes au jardin des plantes de la ville de Montpellier, plus précisément de l'université de Montpellier 1. Et je suis en compagnie de Didier Morisot, qui est chargé des identifications botaniques à l'université de Montpellier 1. Je suis avec lui parce qu'il proposait dimanche 26 septembre 2010 une sortie, une visite de ce jardin des plantes, un véritable réservoir de biodiversité qui compte au moins, voire proche de 2680 espèces végétales. Alors avant de dresser un paysage de ce jardin en cette saison d'automne. Est-ce que Didier, il était possible de rappeler l'histoire de ce jardin des plantes ?
Oui, c'est un jardin qui a été créé en 1593 par Richer de Belval, qui était médecin, et qui était au départ un jardin de plantes médicinales, un jardin médical, mais qui avait en plus de ça quelques petites astuces qui en font que c'était aussi un jardin écologique, un petit peu avant l'heure à vrai dire. Et la preuve en est encore, en sont les terrasses de la montagne sur laquelle on est là, qui proposaient des plantes de milieux variés, et avec ces plantes était introduit le sol qui leur convient dans la nature.
C'est-à-dire qu'ont été rapportées ici, dans le centre-ville de Montpellier, différentes terres pour pouvoir accueillir différentes espèces végétales.
Voilà, c'est ça. Alors en faisant ça, le créateur du jardin a essayé de recréer les milieux tels qu'ils sont, tels qu'on les observe dans la région, au milieu de dunes, milieu de garrigues, et puis il jouait également sur l'exposition des terrasses de la montagne, côté nord, donc milieu de forêt avec des arbres beaucoup plus développés.
La surface à peu près de ce jardin des plantes ?
Il y a 4 hectares et demi, mais morcelés en petits secteurs qui le font paraître beaucoup plus grand en fait. J'ai l'impression qu'il donne.
Et accueillir, gérer 2700 espèces environ végétales sur 4 hectares, travail difficile ou facile ?
Au travail assez difficile, et puis comme tu le dis, 2700 espèces environ, c'est-à-dire quelques-unes passent à la trappe dans les inventaires. Mais globalement, oui, ça tourne autour de ça. C'est difficile parce que certaines plantes se ressèment, se naturalisent, quoi, et ne sont pas prévues dans les plans de culture.
Alors, différents types d'aménagements sont proposés, différents types de jardins on peut retrouver ici.
Oui, alors le jardin, le cœur du jardin, si on peut dire, c'est la montagne avec ses terrasses. Mais la partie scientifique est l'école de systématique qui propose des plantes par famille botanique, où là les étudiants peuvent vraiment venir réviser leur cours, mais en voyant les plantes. Et puis le jardin nord, où il y a différents aménagements, il y a des rocailles, il y a des jardins de plantes vivrières et puis des plantes à épices.
Alors une vocation à l'origine qui était plutôt pour les médecins, les apothicaires. Aujourd'hui, quels sont les usages de ce jardin des plantes ? Est-ce que ce sont essentiellement quoi, le monde étudiant qui vient ici étudier, voir en vrai ce qu'il peut trouver dans les herbiers, et puis peut-être de notre côté les visiteurs ? Est-ce que ce sont ça les deux grandes familles qui côtoient ce jardin ?
Oui, en gros, mais honnêtement, la part de grands scientifiques qui le fréquentent a un petit peu diminué, effectivement, au profit de gens qui l'apprécient pour ce qu'il est, son côté peut-être un petit peu sauvage, et puis les étudiants qui peuvent apprendre les bases de leur connaissance. Et mis à part ça, des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver, qui apprécient bien la variété de tout ce qu'ils trouvent.
Pour ta part, Didier, tu es chargé des identifications botaniques pour l'Université de Montpellier 1. En d'autres mots, quel est ton travail ?
Alors, mon travail consiste à confirmer le nom des plantes qui sont mises en place. Ça, c'est important, puisque c'est un jardin botanique au départ. Il faut qu'on parte sur les bonnes identifications, c'est-à-dire les bons noms. Et de mettre également les étiquettes aux plantes, quand cela est utile.
Est-ce qu'il t'arrive de croiser des gens qui viennent te voir en disant « Ah, monsieur Didier, je pense que l'étiquette que vous avez mis devant telle espèce ne correspond pas ?» Du moins, je veux dire, est-ce qu'il y a des bagarres, des critiques entre spécialistes pour définir telle espèce, lui attribuer un nom scientifique ?
Oui, alors d'abord je m'assure que l'étiquette n'a pas été tout simplement déplacée entre une plante et une autre, ce qui arrive assez souvent. Mais les débats entre scientifiques sont relativement rares quand même, parce qu'il faut d'abord bien connaître l'espèce avant de critiquer les identifications. Ce qui n'est pas de cas de tout le monde, mais oui, mais justement c'est ces moments-là qui nous apportent un peu quelque chose. Ça fait vivre le service, quoi.
Pour ta part, à quelle date tu as traversé pour la première fois le portail d'entrée du Jardin des Plantes ?
C'était en 1983, la première fois. Mais je n'y suis pas resté, je suis revenu en 91.
Une longue histoire, de nombreuses collaborations. Est-ce qu'on arrive à suivre l'évolution de ce jardin des plantes, ou est-ce que d'une année à l'autre, il est semblable à lui-même ?
Ouais, c'est aussi un peu mon travail, c'est de suivre un peu ce que font les plantes. Mais tout en ayant, c'est vrai, une physionomie un petit peu constante. En gros, certains secteurs ne bougent pas beaucoup. Mais si l'on regarde de près, c'est vrai que les plantes, la population de plantes change un petit peu, oui.
Est-ce que la plante, je dirais à l'état naturel, est plutôt d'humeur colonisatrice ?
Tout dépend de son origine première. Une plante bien adaptée, oui, aura tendance à prendre ses aises et puis à retrouver d'autres situations dans le jardin où elle sera à l'aise, en gros à se ressemer, hein, plus ou moins. D'autres, au contraire, n'y trouvent pas ce qu'elles cherchent. Elles ont trop soif, soit il fait trop sec, et puis ça plaît pas. Donc dans ce cas-là, elles ne s'installent pas dans les autres secteurs.
Vous proposez régulièrement des sorties pour le grand public. Pour quelle raison ? Ces rendez-vous tout au long de l'année ?
Bien, c'est pour faire connaître le jardin et puis aussi montrer qu'on a un certain niveau de connaissance qui fait qu'on peut parler aussi bien de la classification des plantes que des plantes à épices, et puis que on a suffisamment d'espace pour pouvoir traiter ces sujets-là, en fait.
Alors là, nous sommes en pleine saison d'automne. Quelles sont les plantes qui s'expriment le mieux durant ces quelques mois ?
Alors l'automne, c'est souvent la floraison de quelques plantes un peu retardatrices, que sont les sauges originaires d'Amérique du Sud, et puis les solanacées, les daturas, ce qu'on appelle les galants, les cestrums, qui sont des plantes qui fleurissent plus ou moins à l'équinoxe. Et puis d'autres plantes, là, des fleurissent, hein, c'est la plus grande partie. Maintenant, ça va être la saison des fruits.
C'est-à-dire, quels fruits ?
Eh bien, par exemple, toutes les cystes vont perdre leurs graines. Enfin, les plantes, beaucoup de plantes de sous-arbrisseaux sont en graines en ce moment.
L'automne, généralement, c'est cela. Ça correspond à la saison où les plantes vont perdre leurs graines.
Oui, c'est généralement ça. Elles perdent leurs graines ou elles terminent leur mise à fruits, comme les pommiers, par exemple. C'est typiquement leur saison.
Pour les arbres, c'est quoi ? C'est la période où les feuilles vont virer au brun, du vert au brun, ou pas forcément ?
Généralement, oui, mais encore que ça dépend quand même des coups de froid qu'on a à partir du mois de septembre-octobre. S'ils sont brutaux, oui, on va avoir une chute des feuilles, mais si la période douce continue, les feuilles vont quand même durer beaucoup plus longtemps à l'automne.
Du coup, c'est une grosse saison pour ceux qui travaillent ici, l'automne.
Oui, c'est une grosse saison. C'est un peu une saison de bilan, un peu de dernière mise en place. C'est une saison, c'est pas encore la grosse saison. On va commencer à ramasser les feuilles et puis à envisager les tailles, mais ça commence à, oui.
Est-ce que c'est également la saison où vous allez décider des nouveaux arrivants de l'année prochaine ?
Oui, voilà, on va pouvoir voir les surfaces dont on dispose, ce qui n'a pas aussi résisté à l'été, hein, parce que ça existe, et faire un petit bilan, effectivement, et puis faire des projets, aussi, parce qu'on vit beaucoup avec des projets.
Alors, je crois savoir qu'il y a des projets de rénovation de ce jardin des plantes. Est-ce que tu peux nous dire là où ils en sont aujourd'hui ?
Oui, alors à ce jour, les serres tropicales, hein, qui occupaient une partie de l'école de systématique, ont été transférées dans l'espace dit technique, là où on mettait tout notre matériel. Donc ça, c'est fait, elles sont opérationnelles. La serre au cactus, qui datait de 1960 et a été reconstruite, et elle est en cours de... L'entreprise est en train de la terminer. Et puis, devrait suivre la reconstruction de l'orangerie, qui est encore un bâtiment en assez mauvais état, là, qui a besoin qu'on s'en occupe.
Pour ta part, pour quelles raisons tu prends si tant de plaisir à travailler parmi les plantes ?
Parce que les sujets sont à peu près inépuisables. Hein. Les plantes possèdent plein d'aspects, elles ont plein d'utilités médicinales, elles peuvent être vivrières, elles peuvent être plantes à épices, des plantes aphrodisiaques, etc. Donc, elles ont des spécificités selon leur climat d'origine, méditerranéenne, tempérée. Autant de sujets sur lesquels on peut travailler, approfondir et qui sont l'occasion d'en parler aussi beaucoup.
Alors 2010 était année de la biodiversité, on parle beaucoup de perte de biodiversité globalement sur la planète. Est-ce que des espaces tels que des jardins des plantes, c'est aujourd'hui essentiel de pouvoir les conserver et les protéger ?
Je pense, parce que en partie parce que des jardins comme le nôtre est un très vieux jardin, il y a donc le temps depuis lequel il est en passe et tous les jardins de ville ne tiennent pas 400 ans, il faut bien dire. Il y a donc l'espace et puis il y a la gestion qui est faite. Et dans cette gestion, il y a finalement, au cours du temps, plein de places pour des petites niches de biodiversité. Je pense par exemple aux mauvaises herbes des pots. Je pense aux fissures des murs qui abritent des tas de plantes, comme le Trachylium ceruleum, le tabac en arbre, qui est originaire de Bolivie. Et des bassins aussi, qui abritent tout un petit écosystème. Voilà.
Alors quand on rentre dans le jardin des plantes, il est désormais écrit que l'université de Montpellier 1 investit ici pour l'avenir du patrimoine historique. Est-ce que c'est à dire que ce jardin des plantes est aujourd'hui sauvé de ce qu'il était il y a quelques années ?
Oui, oh, il a toujours survécu. Et puis c'est, par ailleurs, un monument de cet âge, c'est normal que les choses s'usent, les bâtiments s'usent et finissent par avoir fait leur temps, et puis les renouveler régulièrement. Effectivement, quand une tranche de travaux arrive à son terme, c'est-à-dire quand les bâtiments commencent à fatiguer, on a l'impression que tout tombe, mais après les travaux, ça repart.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient venir découvrir ce très joli jardin des plantes, quels sont les horaires d'ouverture en semaine ou en week-end ?
Le jardin est ouvert tous les jours, donc du mardi au dimanche, de midi à 18h.
Merci à toi Didier, de très bonnes sorties pour l'avenir et encore merci d'avoir accepté cette invitation.
Je te remercie beaucoup à mon tour.
Wobbling, lumbering, whimpering, sometimes. But round and round the mile, then it had become very still. Standing on the stair for an instant, and carefully seeing our thoughts, and why a big be still. Clarity is self-sufficient. There is a will, and there are spokes, and there is a heart, and in the center of the heart, there is exactly nothing.
François Picot, invité à présent de l'émission L'eau à la bouche. François Picot du CPE, du Haut-Languedoc, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Vous êtes avec nous par téléphone, bonjour.
Bonjour.
Pour nous parler notamment d'une série de conférences intitulée « Nos paysages évoluent », série de conférences notamment à Castanet-le-Haut, Fraysse-sur-Agoute et la Salvetat-sur-Agoute, fin octobre de cette année, nous préciserons les dates en fin d'entretien. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous décrire ces paysages pour celles et ceux qui ne les connaissent pas ?
Bien sûr. Alors si on part de l'est, si on commence sur les communes de Castanet, Rosis, on est plutôt sur le massif du Caroux et Spinouse avec des vallées un petit peu plus encaissées, des vallées rocailleuses comme la plus connue, les Gorges d'Éric, et puis le plateau du Caroux aussi qui est bien connu. Et puis en se déplaçant vers l'ouest, on retrouve le plateau de l'Espinouse, qui est très forestier, qui est connu des ramasseurs de champignons. Et puis, on continue par le col de Fontfroide, qui surplombe la vallée de l'Orbe, au Largue. Et puis, en continuant à l'ouest, le plateau du Somail, qui est également connu des ramasseurs de champignons. Donc, un plateau très forestier. Voilà. Et après, les différents lacs aussi qu'on peut retrouver sur ce territoire, le lac de la Raviège à la Salvetat, le lac du Haouzas un peu plus au nord à la limite du Tarn, et puis le lac de Vesal. Voilà. Donc paysage de moyenne montagne, forestier, avec des grands lacs artificiels, et puis une activité agricole qui perdure tout de même malgré les difficultés d'exercer ce métier dans ce genre de territoire.
Pourquoi avoir voulu décliner justement toutes ces conférences sur les paysages ?
Alors tout d'abord, c'est un travail qui dure depuis plusieurs années, hein, notre travail sur le paysage, sur les paysages de notre territoire du Haut-Languedoc, parce que on se rend compte que c'est un paysage, c'est un peu le reflet de l'activité humaine d'un territoire. Et puis, depuis un certain nombre d'années, le territoire, comme partout ailleurs, hein, a évolué. Et donc, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était un petit peu regarder cette évolution, pouvoir l'observer. Et donc, on a mis en place depuis plusieurs années un observatoire photographique des paysages, hein, sur ce territoire. Donc, on a à peu près aujourd'hui un peu plus d'une centaine de clichés qui sont faits plusieurs fois par an sur les 8 communes de la communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc. Donc ça va de Rosis à l'est jusqu'au Tarn, à la limite du Tarn, avec les communes d'Anglès et la Montée-Larrier. Donc en passant, je peux toutes les citer, hein. Donc Rosis, Castanet-le-Haut, Cambon et Salvergue, Fraysse-sur-Agoute, la Salvetat-sur-Agoute, le Soulier, et puis dans le Tarn, Anglès et la Montée-Larrier. Donc depuis 4 ou 5 ans maintenant, on suit régulièrement l'évolution de ces paysages grâce à ces photographies. Voilà, donc ça c'était un des premiers travaux. Et puis on avait aussi mis en place des expositions, des questionnaires. On a questionné plusieurs catégories de personnes du territoire. On a commencé par les élus, les maires de ces 8 communes. Et on leur avait posé des questions sur leur territoire, et sur en particulier sur des sites. Et on leur avait demandé de choisir 4 sites sur leur commune. Le site le plus beau, le site entre guillemets le moins joli, ou qui méritait des aménagements, et puis le site qui représentait le passé de leur commune, et le site qui représente l'avenir de leur commune. Donc à partir de ces questionnaires, on avait fait une exposition. Et puis on a réédité ce travail-là l'année suivante avec les habitants. On a posé les mêmes questions aux habitants des 8 communes. Et puis l'année dernière, on a fait ce travail-là avec les enfants des écoles. Donc aujourd'hui, on a un volet, on a cette exposition en trois volets avec des visions différentes des personnes du territoire. Et donc déjà une vision de ce que les gens ressentent de leur territoire, voilà. Et donc tout ce travail se complète un petit peu. Et puis on a choisi cette année de restituer un petit peu ce travail-là aux habitants des communes, de la communauté de communes, par le biais de soirées autour de la thématique des paysages et des paysages qui évoluent.
Alors qu'attendez-vous de ces conférences organisées?
Alors, ce qu'on attend, c'est déjà la participation des gens du coin. Voilà, on aimerait qu'ils se déplacent. Donc, ce qu'on a choisi, c'est déjà d'animer un petit peu cette période aussi automnale qui est un petit peu plus, on va dire, triste au niveau des activités, parce que c'est quand même un territoire un petit peu reculé avec une population pas très importante. Donc, c'est aussi notre rôle au CPE de proposer des animations un petit peu toute l'année. Et donc on est parti sur la projection d'un film qui s'intitule Les pionniers du paysage, où on retrouve dans une zone qui est très éloignée de la nôtre finalement, qui est les Vosges, mais finalement on trouve qu'il y a beaucoup de correspondances au niveau de l'évolution de ces paysages, et notamment au niveau de l'activité agricole, avec une problématique de fermeture des milieux, c'est-à-dire une déprise agricole et puis des terres, des parcelles de prairies, etc., de pâturages qui ont tendance à disparaître parce que y a plus personne pour les entretenir ou de moins en moins de monde. Donc à partir de ce film-là, et puis aussi une exposition des différentes photos qui ont été faites grâce à l'Observatoire photographique des paysages, pour montrer que sur les quelques années qu'on a de recul, on observe déjà des choses. Et puis, à partir de cette exposition, de ce film, déboucher derrière sur une discussion, sur un débat, sur le ressenti des habitants du territoire sur leur paysage et sur leur évolution.
Série donc de conférences intitulée « Nos paysages évoluent » organisée par le CPIE du Haut-Languedoc. Vendredi 22 octobre à Castanet-le-Haut, vendredi 5 novembre à Fraysse-sur-Agoute et vendredi 26 novembre à la Salvetat-sur-Agoute, à chaque fois de 20h30 à 22h30, des rencontres et des échanges ouverts à tous. Dernier coup d'œil sur une autre manifestation que vous proposez, une des caractéristiques aussi du Caroux, ce sont les mouflons, et vous proposez donc une sortie intitulée Le Guetteur de Lune le samedi 6 novembre, François Picot.
Tout à fait. Alors ça, c'est une sortie qu'on propose toute l'année, et puis en particulier l'été. Mais là, on trouvait intéressant de la reproposer aussi à cette période de l'année, parce que c'est la période du rut. Donc ça nous permet d'observer des comportements qu'on voit pas le reste de l'année, notamment autour des mâles qui ont ces comportements de rut. Et puis c'est là qu'on peut observer les combats entre mâles, et qu'on peut aussi observer des groupes un petit peu plus importants entre mâles et femelles. Et voilà, c'est une période plutôt sympathique pour aller observer les mouflons. Voilà.
Donc de 10h à midi un samedi matin le 6 novembre, rendez-vous à Rosis.
De 10h à 17h, pardon, voilà. Donc là, par contre, c'est une inscription CPE parce qu'on a un nombre limité de personnes pour éviter de se retrouver avec un groupe trop important pour aller observer les animaux. Donc là, c'est vraiment inscription obligatoire, minimum 2 jours avant l'animation. Voilà.
04 67 97 51 16, CPE du Haut-Languedoc, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Renseignements et donc réservations, notamment pour le Guetteur de Lune. 04 67 97 51 16. Voilà. Merci à vous, François Picot, d'être passé par l'eau à la bouche.
Voilà, je vous en prie. Merci à vous.
Bonne journée, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Ainsi s'achève l'émission L'eau à la bouche du mois d'octobre 2010. Les pauses musicales étaient signées Yann Tiersen avec des morceaux extraits de son dernier album Dust Lane qui vient de paraître. L'eau à la bouche, une émission diffusée sur plusieurs radios associatives libres et non commerciales, RPH, Radio Clapas et Divergence FM. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt.